Chers frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers malades, chers accompagnateurs et hospitaliers, chers frères et sœurs, nous avons célébré hier la croix du Christ, l'instrument de notre salut qui nous révèle dans toute sa plénitude la miséricorde de notre Dieu. La croix est en effet le lieu où se manifeste de façon parfaite la compassion de Dieu pour notre monde. Aujourd'hui, en célébrant la mémoire de Notre-Dame des douleurs, nous contemplons Marie qui partage la compassion de son Fils pour les pécheurs. Comme l'affirme saint Bernard, la mère du Christ est entrée dans la passion de son Fils par sa compassion. Au pied de la croix se réalise la prophétie de Siméon. Son cœur de mère est transpercé par le supplice infligé à l'innocent né de sa chair. Comme Jésus a pleuré, Marie a certainement elle aussi pleuré devant le corps torturé de son enfant. La discrétion de Marie nous empêche de mesurer l'abîme de sa douleur. La profondeur de cette affliction est seulement suggérée par le symbole traditionnel de cette grève. Comme pour son fils Jésus, il est possible de dire que cette souffrance l'a conduite elle aussi à sa perfection pour la rendre capable d'accueillir la nouvelle mission spirituelle que son fils lui confie juste avant de mettre l'esprit, devenir la mère du Christ en ses membres. En cette heure, à travers la figure du disciple bien-aimé, Jésus présente chacun de ses disciples à sa mère en lui disant « Voici ton fils ». Marie est aujourd'hui dans la joie et la gloire de la résurrection. Les larmes qui étaient les siennes au pied de la croix se sont transformées en un sourire que rien n'effacera tandis que sa compassion maternelle envers nous demeure intacte. L'intervention secourable de la Vierge Marie au cours de l'histoire l'atteste et ne cesse de susciter à son égard dans le peuple de Dieu une confiance inébranlable. La prière du « Souvenez-vous » exprime très bien ce sentiment. Marie aime chacun de ses enfants, portant d'une façon particulière son attention sur ceux qui, comme son fils à l'heure de sa passion, sont en proie à la souffrance. Elle les aime tout simplement parce qu'ils sont ses fils, selon la volonté du Christ sur la croix. Le psalmiste, percevant de loin ce lien maternel qui unit la mère du Christ et le peuple croyant, prophétise au sujet de la Vierge Marie que les plus riches du peuple quêteront ton sourire. Ainsi, à l'instigation de la parole inspirée de l'Écriture, les chrétiens ont-ils depuis toujours quêté le sourire de Notre-Dame, ce sourire que les artistes au Moyen-Âge ont su si prodigieusement représenter et mettre en valeur. Ce sourire de Marie est pour tous. Il s'adresse cependant tout spécialement à ceux qui souffrent, afin qu'ils puissent y trouver le réconfort et l'apaisement. Rechercher le sourire de Marie n'est pas le fait d'un sentimentalisme dévot ou suranné, mais bien plutôt l'expression juste de la relation vivante et profondément humaine qui nous lie à celle que le Christ nous a donnée pour mère. Désirer contempler ce sourire de la Vierge, ce n'est pas se laisser mener par une imagination incontrôlée. L'Écriture elle-même nous le dévoile sur les lèvres de Marie, lorsqu'elle chante le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Quand la Vierge Marie rend grâce au Seigneur, elle nous prend à témoin. Marie partage, compare anticipation avec ses futurs enfants que nous sommes, la joie qui habite son cœur pour qu'elle devienne la nôtre. Chaque récitation du Magnificat fait de nous des témoins de son sourire. Ici à Lourdes, au cours de l'apparition qui eut lieu le mercredi 3 mars 1858, Bernadette contempla de manière toute particulière ce sourire de Marie. Celui-ci fut la première réponse que la belle dame donna à la jeune voyante qui voulait connaître son identité. Avant de se présenter à elle, quelques jours plus tard, comme l'Immaculée Conception, Marie lui fit d'abord connaître son sourire, comme étant la porte d'entrée la plus appropriée à la révélation de son mystère. Dans le sourire de la plus éminente de toutes les créatures, tourné vers nous, se reflète notre dignité d'enfant de Dieu, cette dignité qui n'abandonne jamais celui qui est malade. Ce sourire, vrai reflet de la tendresse de Dieu, est la source d'une espérance invisible. Nous le savons malheureusement, la souffrance endurée rompt les équilibres les mieux assurés d'une vie et prend les assises les plus fermes de la confiance et en vient parfois même à faire désespérer du sens et de la valeur de la vie. Il est des combats que l'homme ne peut soutenir seul, sans l'aide de la grâce divine. Quand la parole ne sait plus trouver de mots justes, s'affirme le besoin d'une présence aimante. Nous recherchons alors la proximité non seulement de ceux qui partagent le même sang et qui nous sont liés par l'amitié, mais aussi la proximité de ceux qui nous sont intimes par le lien de la foi. Qui pourrait nous être plus intime que le Christ et sa Sainte Mère l'Immaculée? Plus que tout autre, ils sont capables de nous comprendre et de saisir la dureté du combat mené contre le mal et la souffrance. La lettre aux Hébreux dit à propos du Christ qu'il n'est pas incapable de partager notre faiblesse, car en toute chose, il a connu l'épreuve comme nous. Je souhaiterais donc dire humblement à ceux qui souffrent et à ceux qui luttent et sont tentés de tourner le dos à la vie, tournez-vous vers Marie. Dans le sourire de la Vierge se trouve mystérieusement cachée la force de poursuivre le combat contre la maladie et pour la vie. Auprès d'elle se trouve également la grâce d'accepter, sans crainte ni amertume, de quitter ce monde à l'heure voulue par Dieu. Comme elle était juste, l'intuition de cette belle figure spirituelle française, dont Jean-Baptiste Chautard, qui dans l'âme de tout apostolat proposait aux chrétiens ardents de fréquentes rencontres de regard avec la Vierge Marie. Oui, qu'était le sourire de la Vierge Marie n'est pas un pieux enfantillage, c'est l'aspiration, dit le psaume 44, de ceux qui sont les plus riches du peuple, les plus riches, c'est-à-dire dans l'ordre de la foi, ceux qui ont la maturité spirituelle la plus élevée et savent précisément reconnaître leur faiblesse et leur pauvre temps devant Dieu. En cette manifestation tout simple de tendresse qu'est un sourire, nous saisissons que notre seule richesse est l'amour que Dieu nous porte et qui passe par le cœur de celle qui est devenue notre mère. Quitter ce sourire, c'est d'abord cueillir la gratuité de l'amour. C'est aussi savoir provoquer ce sourire par notre effort pour vivre selon la parole de son Fils bien-aimé, tout comme un enfant cherche à faire naître le sourire de sa mère en faisant ce qui lui plaît. Et nous savons ce qui plaît à Marie, grâce à la parole qu'elle adressa au serviteur à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Le sourire de Marie est une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Marie est celle qui a cru et de son sein ont jailli des fleuves d'eau vive qui viennent irriguer l'histoire des hommes. La source indiquée ici à Lourdes par Maria Bernadette est l'humble signe de cette réalité spirituelle. De son créateur de croyante, de mère, jaillit une eau vive qui purifie, qui guérit. En se plongeant dans les piscines de Lourdes, combien n'ont-ils pas découvert et expérimenté la douce maternité de la Vierge Marie, s'attachant à elle pour mieux s'attacher au Seigneur. Dans la séquence liturgique de cette fête de Notre-Dame des Douleurs, Marie est honorée sous le titre de Fons Amoris, source d'amour. Du cœur de Marie sourd en effet un amour gratuit qui suscite en réponse un amour filial appelé à s'affiner sans cesse. Comme toute mère, et mieux que toute mère, Marie est l'éducatrice de l'amour. C'est pourquoi tant de malades viennent ici à Lourdes pour se désaltérer auprès du Fons Amoris et pour se laisser conduire à l'unique source du salut, son Fils Jésus le Sauveur. Le Christ dispense son salut à travers les sacrements et tout spécialement aux personnes qui souffrent de maladies ou qui sont porteuses d'un handicap à travers la grâce de l'onction des malades. Pour chacun, la souffrance est toujours une étrangère. Sa présence n'est jamais domesticable. C'est pourquoi il est difficile de la porter et plus difficile, comme l'ont fait certains grands témoins de la sainteté du Christ, de l'accueillir comme une partie prenante de vocation ou d'accepter, comme Bernadette l'a formulé, de tout souffrir en silence pour plaire à Jésus. Pour pouvoir dire cela, il faut déjà avoir parcouru un long chemin en union avec Jésus. Dès à présent, il est possible, en revanche, de s'en remettre à la miséricorde de Dieu telle qu'elle se manifeste par la grâce du sacrement du malade. Bernadette elle-même, au cours d'une existence souvent marquée par la maladie, a reçu ce sacrement à 4 reprises. La grâce propre à ce sacrement consiste à l'accueillir, à accueillir en soi le Christ médecin. Cependant, le Christ n'est pas médecin à la manière du monde. Pour nous guérir, il ne demeure pas extérieur à la souffrance éprouvée. Il la soulage en venu habiter en celui qui est atteint par la maladie pour la porter et la vivre avec lui. La présence du Christ vient rompre l'isolement que provoque la douleur. L'homme ne porte plus seul son épreuve, mais il est conformé au Christ qui souffre au Père en tant que membre souffrant du Christ. Il participe en lui à l'enfantement de la nouvelle création. Sans l'aide du Seigneur, le joug de la maladie et de la souffrance est cruellement pesant. En recevant le sacrement des malades, nous ne désirons porter d'autre joug que celui du Christ, fort de la promesse qu'il nous a faite que son joug sera facile à porter et son fardeau léger. J'invite les personnes qui recevront l'onction des malades au cours de cette messe à entrer dans une telle espérance. Le Concile Vatican II a présenté Marie comme la figure en laquelle est résumé tous les mystères de l'Église. Son histoire personnelle anticipe le chemin de l'Église, qui est invitée à être tout aussi attentive qu'elle aux personnes qui souffrent. J'adresse un salut affectueux à toutes les personnes, particulièrement le corps médical et soignant, qui à divers titres dans les hôpitaux ou dans d'autres institutions contribue aux soins des malades avec compétence et générosité. Je voudrais également dire à tous les hospitaliers, aux brancardiers, aux accompagnateurs qui, provenant de tous les diocèses de France et plus loin encore, entourent tout au long de l'année les malades qui viennent en pèlerinage à Lourdes, combien leur service est précieux. Ils sont les bras de l'Église servante. Je souhaite enfin encourager ceux qui, au nom de leur foi, accueillent et visitent les malades, en particulier dans les aumôneries des hôpitaux, dans les paroisses ou comme ici dans les sanctuaires. Puissiez-vous, en étant les porteurs de la miséricorde de Dieu, toujours ressentir dans cette mission importante et délicate le soutien effectif et fraternel de vos communautés. Et dans ce sens, je salue, je remercie particulièrement aussi mes frères de l'Épiscopat, les évêques français, les évêques étrangers et les prêtres qui tous sont des accompagnateurs des malades et des hommes dans les souffrances de ce monde. Merci pour votre service avec le Seigneur souffrant. Le service de charité que vous rendez est un service marial. Marie vous confie son sourire pour que vous deveniez vous-même, dans la fidélité à son Fils, source d'eau vive. Ce que vous le faites au nom de l'Église, dont Marie est l'image la plus pure. Puissiez-vous porter son sourire à tous. En conclusion, je souhaite m'unir à la prière des pèlerins et des malades et reprendre avec vous un extrait de la prière à Marie proposée pour la célébration de ce jubilé. Parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de l'Esprit Saint, parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l'étoile du matin, la porte du ciel et la première créature ressuscitée, Notre-Dame de Lourdes, avec nos frères et sœurs dont le cœur et le corps sont endoloris, nous te prions. Amen.